Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Stéphanie Janico, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître aux éditions Albin Michel un nouveau roman dont le titre est Le réveil des sorcières. Alors vous êtes écrivain, vous avez écrit de nombreux romans dont certains qui ont eu des prix. Par exemple, il y a Les Matrioshkas chez Ulma en 96. C'était votre premier, je crois, premier roman ?
Oui, c'était mon premier roman, absolument.
Et qui a remporté le prix Goya du premier roman et d'autres prix littéraires. Et puis il y en a eu d'autres. Et La mémoire du monde, un autre livre important, 3 tomes je crois, chez Albin Michel en 2013, qui obtient le prix Renaudot du livre de poche en 2016.
Alors, parmi les prix que remet le jury Renaudot, il y a donc le Renaudot qu'on connaît, il y a un Renaudot des lycéens, c'est-à-dire que les lycéens vont prendre la liste qui a été faite par le Renaudot, et ils ont un Renaudot de l'essai et un Renaudot du livre de poche. Donc chaque année, ils couronnent un livre de poche. Et en fait, La mémoire du monde, qui était paru en 3 tomes en grand format, au livre de poche, j'avais tenu à ce qu'il soit en un seul format. Donc c'était un énorme livre de poche qui faisait 1800 pages. Et c'est lui qui a obtenu le prix Renaudot poche.
Alors c'est fascinant, un titre pareil, La mémoire du monde, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors La mémoire du monde, c'était un questionnement que j'avais pour aujourd'hui, c'était pourquoi je pense comme je pense. Et au lieu de remonter à mon père, ma mère ou mes grands-parents, je me suis dit je vais remonter au plus loin qu'il est possible pour justifier aussi pourquoi une femme française, donc de l'Occident, pense comme elle pense aujourd'hui, et je suis remontée sous l'Égypte ancienne, c'est-à-dire il y a 3500 ans, sous le règne d'Aménophis III, et c'est là que commence l'histoire de la mémoire du monde, et c'est l'histoire d'une jeune femme qui est immortalisée à l'âge de 18 ans sous le règne d'Aménophis III, et qui va traverser les 3500 années qui nous mènent jusqu'à aujourd'hui.
Alors, dire que vous avez passé votre bac aux États-Unis, c'est important. Vous avez fait des études de droit, Sciences Po et le CFJ.
Le Centre de formation des journalistes, oui.
Bon, et vous devenez journaliste à Bayard Presse en 92.
Oui.
Vous dirigez les pages littéraires du magazine Muse dès sa création en 2004 et vous en devenez rédactrice en chef en 2010. Alors Muse, c'est quoi exactement comme magazine ?
Alors, Muse, c'est arrêté. Enfin, c'est-à-dire que c'était une revue de culture au féminin et je travaillais par thème. Et notamment, j'avais fait un thème sur les sorcières il y a à peu près 10 ans de ça déjà. Le sujet m'intéressait. Et je travaillais par thème et autour de ces thèmes, j'interviewais des femmes créatrices, plasticiennes, cinéastes, romancières. La revue était très chère à fabriquer. Elle était trimestrielle et elle s'est arrêtée il y a presque 3 ans. Et depuis, j'ai repris mon métier de base, qui est du journalisme littéraire. C'est-à-dire, je m'occupe plus que de livres. C'est vraiment ce que j'aime faire. Et je suis toujours à Bayard Presse, dans la même entreprise, où je m'occupe de pages littéraires pour La Croix et pour Notre Temps.
Très bien. Alors, ce livre, Le réveil des sorcières, est-ce que vous pouvez nous éclairer ce titre et nous dire qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressée par ce domaine ? Bon, vous êtes née à Rennes. Rennes, c'est aussi important, c'est un ancrage aussi de ce monde un peu ésotérique.
Alors, je suis née à Rennes, mais j'ai grandi, enfin, ma maison de famille est à l'orée de la forêt de Brocéliande, hein. Qui ne s'appelait pas la forêt de Brocéliande quand j'étais petite, mais la forêt de Pimpon. Mais c'est cette forêt-là, c'est cette forêt magique, et c'est vrai que j'ai été imprégnée pendant toute mon enfance de l'enchanteur Merlin, fée Viviane, chevalier de la table ronde. Je pense que ça a excité mon imaginaire. Cela étant, c'est pas forcément ça qui m'a donné envie d'écrire sur les sorcières. C'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Et je pense que s'il intéresse aujourd'hui l'ensemble de la société, c'est qu'on vit dans un monde qui est très très bousculé. Et que dans un temps où nos repères s'effacent, nous avons tendance à nous tourner vers des choses qui ont fait leur preuve, vers de l'authentique, l'ancestral, le rituel, la nature. Et la figure de la sorcière, elle est en fait à la croisée d'un peu tout ça, parce que par l'aspect guérisseuse, elle va être très proche de la nature, elle utilise des rituels, elle est l'intermédiaire en fait entre un monde invisible, dont les mystères nous dépassent mais nous intriguent follement, et notre monde réel. Et je pense que c'est ce personnage-là qui, aujourd'hui, est une sorte de figure mythique, qui est aussi, qui cristallise aussi deux émotions humaines qui sont très fortes, qui sont la peur et l'espoir. Or, évidemment, on vit dans une société où la peur est très prégnante, peur de perdre, peur d'être frappé par la fatalité, peur de se perdre, mais aussi par l'espoir d'être sauvé, l'espoir que les choses vont aller mieux et surtout peut-être l'espoir qu'il existerait un autre monde.
Alors ce livre, Le Réveil des Sorcières, il y a une femme écrivain qui est très passionnée du monde de la magie, commence son nouveau roman qu'elle a du mal à écrire, un roman qui se refuse. Elle commence son nouveau roman par un accident de voiture qui coûte la vie à
une sorcière. Et en fait, elle est rattrapée par son histoire, puisque elle est une de ses très bonnes amies et guérisseuse et un peu médium en forêt de Brocéliande, et se tue dans un accident de voiture, exactement comme elle l'a décrit dans son livre. Alors, cela étant, c'est exactement ce qui m'est arrivé pendant l'écriture du livre. Et c'est un livre que j'ai dû écrire 3 fois, parce qu'il a été émaillé par des deuils au fur et à mesure que j'écrivais. C'était très impressionnant aussi pour moi de me retrouver à avoir des correspondances entre ce que j'écrivais et ce qui se produisait. Ce qui fait que ce livre, tel qu'il est aujourd'hui paru, avec le personnage de la narratrice, qui est donc un peu, on va dire, mon point de vue et mon regard, cette narratrice, elle n'était pas là au départ. Et je l'ai faite intervenir dans le livre parce que j'avais besoin de raconter cette histoire telle que finalement elle était en train de m'arriver.
Alors ça, c'est tout à fait incroyable. Est-ce que le fait d'écrire une histoire, c'est peut-être donner corps à des pensées, donner corps, faire advenir des raisonnements, des situations que l'on écrit? Alors la force et le pouvoir et l'impact de l'écriture sur le devenir, sur l'avenir, sur la réalité? Ça, c'est
alors,
une question.
C'est la question que je pose dans le roman, et c'est évidemment la peur qu'a la narratrice. C'est, j'ai écrit ça, j'ai donné mes mots à la mort, et la mort est arrivée. Au fur et à mesure que j'ai écrit, je crois que j'ai compris que ce n'était pas ça. Parce qu'en fait, toute l'histoire, c'est l'histoire d'un compagnonnage entre cette romancière établie et on va dire une petite sorcière en devenir, c'est-à-dire la fille cadette de la personne qui s'est tuée. Et cette gamine, elle est très médium, en lien aussi avec les pouvoirs de sa mère, et donc elles vont cheminer ensemble, et la narratrice va se rendre compte qu'en fait ce ne sont pas ses mots et ses pensées à elle qui tuent, mais simplement quand elle est en situation d'écriture, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de la transe, et donc de la voyance. Et c'est-à-dire que la romancière, on va dire, aurait un pouvoir médiumnique, et ça c'est ce que je pense aujourd'hui, parce que je me suis vraiment posé la question sur ce qui se passait, parce que dans plusieurs de mes autres livres, de mes autres romans, j'ai décrit des catastrophes, et elles se sont produites exactement de la même manière, donc ça m'a vraiment souvent heurtée. Et là, je crois que j'ai compris que non, je ne suis pas responsable des drames qui vont se produire, mais simplement, en état d'écriture, on se met dans un état de transe qui est un état de médiumnité et donc de voyance.
Alors, écrire, c'est un petit peu avoir un pouvoir de voyance, de visionnaire, et voir, grâce à une sensibilité épidermique, vibrer à ce qui est potentiellement prêt à advenir, donc le sentir, voir. Et l'écriture, c'est quelque chose tel que vous le présentez, c'est vraiment un talent plus qu'artistique.
C'est à la fois un travail, parce que l'écrivain travaille beaucoup hein, pour construire l'histoire, écrire le texte, le retravailler, etc. Mais il y a, au sein de ce travail, c'est-à-dire dans le moment d'écriture pure, où on laisse l'histoire se construire dans sa tête et arriver, je pense quelque chose qui nous traverse et nous dépasse, sans doute. Comme moi j'ai une amie qui est chamane et je reconnais effectivement dans les images qui m'arrivent des choses qu'elle me raconte. Et en fait, on appelle ça aujourd'hui, c'est cet état de concentration extrême qu'a l'écrivain quand il est en train d'écrire. On lui a donné un nom d'ailleurs, ça s'appelle le flow, F-L-O-W. Et ça c'est un truc que les chats sentent. On pense que les écrivains aiment bien les chats parce qu'ils sont solitaires, que les chats aiment bien les écrivains parce qu'ils bougent pas beaucoup. Mais en fait, le chat sent le flow. Et moi qui ai eu un chat pendant l'écriture de ce roman, quand j'étais sur l'ordinateur à regarder les réseaux sociaux, des choses comme ça, le chat était loin de moi. Dès que je commençais à écrire, le chat venait se coller à moi. Donc en fait, il se passe quelque chose qui nous dépasse un peu, en fait, qui est juste, je pense, un état de grande concentration et qui fait que dans cet état de grande concentration, on se met à avoir accès à des informations, à des images que dans la vie réelle, on n'a pas.
Alors, il y a la forêt de Brocéliande, il y a des prénoms comme Diane, Viviane. Ce sont des prénoms très intenses et lourds de transmission au niveau ésotérique.
Oui, j'aime énormément, en fait, mettre dans mes romans des prénoms chargés de sens. Diane est donc cette déesse de la nature hein, que nous connaissons. Et c'est un personnage important, très important dans ce monde, on va dire, des panthéons de dieux et de déesses. Viviane, c'est la fée emblématique de la forêt de Brocéliande. Mais il est dit hein, qu'elle ne nomme pas sa fille par hasard. C'est pas un hasard que les enfants s'appellent comme ça. C'est que la mère de Diane était déjà médium et sorcière. Et elle nomme sa fille en connaissance de cause. Et Diane nomme sa première fille aussi en connaissance de cause. Parce que pour rendre hommage à Viviane.
Alors, qu'est-ce qu'une sorcière et qu'est-ce que la magie? Et quand la magie se dote d'une couleur, magie noire, qu'est-ce que c'est pour nous qui sommes, nous les néophytes, qui sommes un petit peu dans le flou?
Alors, la sorcellerie, le principe de la sorcellerie, c'est que une personne dotée, on va dire, d'une faculté de perception intense, de rapport avec les esprits, d'une forme de médiumnité, va accomplir des rituels en vue d'avoir des effets sur le monde réel. Par exemple, quelqu'un qui va aller voir une sorcière pour trouver l'amour. Ou pour avoir une réussite. Et ça, on appelle ça de la magie blanche, c'est-à-dire que c'est des choses positives. On va voir la sorcière pour influencer positivement sa vie. La magie noire, c'est l'inverse. Vous en voulez à votre voisin et vous voulez lui jeter un sort, ou vous en voulez à votre ex-mari, ou vous en voulez à je ne sais qui. Et là, c'est devant des rituels qu'on dit de magie noire.
Alors, vous parlez de rituels. Quel est le rôle de catalyseur peut-être de ces
forces? Je pense que le rituel qui est très long, qui est très précis, intensifie l'intention. Et en fait, évidemment, la question que se pose la narratrice dans ce roman, c'est est-ce que ça marche et comment ça marche? Pour avoir lu beaucoup sur le sujet et notamment les livres de sociologues qui ont travaillé longuement sur ce milieu, qui existe, hein, qui est vraiment très important en Bretagne aujourd'hui, il semble que quand même ça marche. En tous les cas, les gens qui vont y voir, on va y voir, sont souvent satisfaits des prestations des jeteurs de sorts et des sorciers. Comment ça marche? Personnellement, j'ai pas envie de mettre les pieds dedans, ça me fait vraiment peur. Je pense que ça marche aussi par l'intention qu'on y met et la force spirituelle de la personne qui accomplit les rituels.
L'engagement, la concentration, l'adhésion, finalement, l'allégeance. quelque part à cet univers.
Oui. Ah, certainement. Déjà, la personne qui exerce la fonction de sorcier y croit fondamentalement, et la personne qui va y voir, forcément, attribue au sorcier un pouvoir. En tous les cas, il lui donne ce pouvoir, et il va en attendre un résultat.
Alors, puisque nous avons parlé de rituels, continuez sur dans ce domaine avant de passer à autre chose. Donc, le rituel des cartes, des bougies, des décoctions, des teintures mères, des infusions, tout ça, c'est le matériel par lequel les choses de la magie peuvent advenir.
Alors, tout ça sont des choses différentes et qui relèvent de domaines différents. Quand on parle de teinture mère, de décoction, etc., on n'est pas forcément dans la magie, mais dans le domaine des guérisseurs. Mmh. Et donc ça, c'est la transformation des plantes, donc des propriétés de la nature, pour en faire des plantes qui soignent. Donc là, on n'est pas dans la magie.
Le guérisseur, il a quand même un fluide qui échappe, qui n'est pas naturel à nous tous. C'est quand même un petit peu magique.
C'est quand même un savoir, un savoir qui se transmet, qui se perd plus ou moins maintenant, mais qui se transmet, enfin, et qui s'apprend. Savoir quelle plante il faut mettre avec telle autre plante et comment, enfin, quelle est la partie de la plante qu'il faut faire sécher. Parfois c'est la racine, parfois c'est la tige, parfois c'est la fleur. Ça, ce sont des savoirs qui s'apprennent, réellement. Et nul besoin d'être magicien, on va dire, pour les faire fonctionner. Alors après, il y a autre chose qui s'appelle les dons de naissance, hein, qui sont pas non plus forcément de la magie, mais selon des dates de naissance particulières, certaines personnes font passer les zonates, les eczémas, les brûlures. Alors, est-ce que c'est que des dons de naissance ou après c'est aussi des transmissions ou des savoirs qui s'acquièrent? Voilà, donc il y a ça. Ça, c'est un domaine, mais dont on va dire c'est pas de la sorcellerie. Hein. En revanche, alors après, quand on parle, vous m'avez parlé de cartes, donc la lecture des tarots. Là, on est plus dans un phénomène de médium, hein, c'est-à-dire que les médiums se servent de supports. Ça peut être une boule de cristal, ça peut être de l'eau dans une coupe, ça peut être des cartes, ça peut être des pendules. Et ils se servent d'un support pour voir. Ça, c'est de la voyance. On n'est pas encore non plus dans la magie. En revanche, quand on rentre dans les rituels, on va dire du cercle magique, fermer le cercle, des quatre éléments qui ont été purifiés, l'eau, l'encens, le sel, donc pour faire la terre, le feu, l'air, et je sais plus ce que j'ai oublié, l'eau, je crois.
L'eau, oui.
Voilà. Là, on rentre dans des rituels de magie.
Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est cette, vous avez parlé de transmission, c'est comme si c'était dans l'ADN, comme par exemple un guérisseur ou bien une sorcière, son enfant a de fortes chances d'avoir cette compétence, soit parce que la maman a déjà expliqué, délégué des savoirs, etc., soit tout simplement par, je sais pas moi, ADN. Hérédité.
Alors ADN, j'en sais rien, je dirais pas l'hérédité, mais sans doute par une sensibilité particulière à ces choses-là. Je pense qu'on est beaucoup plus de gens s'ignorent ayant de ce type de pouvoir. Il me semble que c'est aussi une perméabilité à des choses finalement que l'on sent et auxquelles on ne prête pas attention. Or, évidemment, une petite fille dont la maman est guérisseuse, médium, magicienne, elle va être sensibilisée dès sa toute petite enfance. Elle va vivre dans la nature, elle va connaître les plantes, et elle aura évidemment un potentiel beaucoup plus grand, et ce sera beaucoup plus simple pour elle d'accéder à ce genre de pratique quand elle sera plus grande.
Alors, la terre bretonne, pourquoi vibre-t-elle de cette potentialité d'ésotérisme, de choses occultes? La terre bretonne, qu'est-ce qu'il y a
alors,
dans son histoire?
Pour deux raisons, je pense. Une est particulièrement géologique, c'est-à-dire que la pierre granitique, les schistes roses que nous avons en Bretagne doivent être porteurs d'ondes, il me semble. Et des études qui ont été faites sur les ondes, et les pierres dressées, donc ce qu'on appelle les menhirs, ils ont montré que à l'endroit où nos très très lointains ancêtres avaient posé des pierres dressées, la concentration en ondes était beaucoup plus forte. Ce qui veut dire qu'en fait, ils avaient accès à ces chemins souterrains d'énergie qui existent. Hein. Enfin là, pour le coup, c'est pas de la magie. Hein. C'est vraiment et ils savaient les mesurer et ils mettaient ces menhirs au croisement des flux d'énergie. Donc probablement, la Bretagne, mais ce n'est pas la seule région, hein, doit avoir une forte concentration en énergie et en ondes. On trouve beaucoup dans la forêt de Brocéliande des magnétiseurs, des énergéticiens, et il est très très courant pour nous bretons, quand on est affecté par un mal quelconque, de dire ben, on va voir le magnétiseur plutôt que le kiné, enfin des choses comme ça. Après, il doit y avoir une dimension sans doute aussi historique et culturelle. C'est que, comme on nous raconte ces histoires depuis qu'on est tout petit, forcément, on a tendance à y croire. Et on a recours au merveilleux plus facilement, sans doute, qu'une autre personne qui aurait été élevée dans un milieu plus rationnel.
Alors, une question peut-être indiscrète. Si elle est indiscrète, n'y répondez pas et pardonnez-moi. Stéphanie Janicot, est-ce que vous êtes... dans votre écriture, je pense que oui, vous êtes sensible au merveilleux. Est-ce que vous pratiquez les tarots? À quoi vous a donné-vous dans cet univers? Déjà dans l'écriture, vous avez ce talent de, dans cette concentration, dans cette transe, de voir d'écrire des histoires, des choses qui peuvent se produire en réalité. Alors, vous et le merveilleux?
Alors, dans la vie réelle, hormis l'écriture, alors si je tire les tarots, mais je les tire pas très bien et on va dire pas de manière très très professionnelle. Hein. Donc, et ma mère tirait les cartes et je savais aussi tirer les cartes. Donc c'est vrai qu'on a ça dans la famille. Ma tante aussi tire les cartes. Donc on a ce petit côté comme ça, voir à travers. Bon, c'est vraiment un tout petit don. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je suis pas du tout à un stade où je pourrais me dire médium ou voyante ou quoi que ce soit. Et après, de par mon métier, on va dire, de romancière, j'ai développé une sensibilité particulière. Je vais être sensible à des tas de signes, à des tas d'images. Donc forcément, je vais, on va dire, faire fructifier mon intuition.
Alors, juste avant de finir, est-ce que vous pouvez nous donner un tout petit peu quelques amorces de cette histoire pour nous mettre en appétit?
Alors, donc l'histoire commence par un accident de voiture d'une jeune femme, enfin d'une femme pas si jeune finalement, puisqu'elle est un petit peu plus jeune que moi, mais pas beaucoup, qu'on appelle la sorcière parce qu'elle est guérisseuse et qu'elle est un peu médium. Et elle a deux filles, Viviane l'aînée qui a 19 ans et la plus jeune Sohan qui a 13 ans. Et Sohan est convaincue que sa mère a été assassinée, que l'accident n'est pas fortuit. Donc lorsque les deux filles vont appeler l'amie de leur mère qui est romancière et qui va arriver sur place, la plus jeune va dire à la romancière « Je veux que tu mènes l'enquête et je veux savoir qui a tué ma mère ». La romancière n'est pas très convaincue que son amie a été assassinée. Elle est même très culpabilisée par le fait que, ayant écrit ce premier chapitre avec un accident de voiture, elle en soit responsable. Mais elle décide de cheminer aux côtés de cette petite fille et de rencontrer les gens qui sont autour et qui auraient été susceptibles d'assassiner Diane. Et de fait, l'enfant a raison, la mère a vraiment été assassinée.
Au niveau des prénoms, nous avons parlé de Diane, mais Viviane, quelle est la densité de ce nom?
Viviane, c'est la fée dont l'enchanteur Merlin est tombé amoureux, et à laquelle il a appris tous les sorts et la magie, et, y compris le dernier sort, le sort qui va lui être fatal, celui de pouvoir emprisonner la personne que l'on aime pour toujours. Donc voilà, ça c'est Viviane. Mais il se trouve que la fille aînée qui s'appelle Viviane dans le roman, elle est extrêmement rationnelle. Oui. Et alors elle, pour le coup, n'a aucunement hérité des dons de sa mère et surtout elle n'en veut pas. Elle a envie d'avoir une vie tout à fait normale. Elle est amoureuse. Elle travaille dans une crêperie. Elle est amoureuse d'un garçon qui est jardinier, lequel est tout aussi rationnel qu'elle. Et ils ont envie de se faire une vie heureuse, de se marier, d'avoir des enfants et en aucun cas d'avoir recours à la magie. Donc elle est un petit peu ennuyée que sa petite sœur soit à ce point frappée par les dons de leur mère.
Stéphanie Janicot, merci infiniment de nous avoir parlé de ce roman très envoûtant, Le réveil des sorcières, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. À une autre fois avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Je vous remercie beaucoup. Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe. Ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Mathias Malzieu, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître aux éditions Albin Michel un nouveau roman dont le titre est Une sirène à Paris. Alors, vous êtes chanteur, musicien, écrivain. Vous êtes le chanteur du groupe de rock français Dionysos, très connu. Donc, c'est depuis 1993. Vous avez écrit des livres, vous avez écrit des paroles pour des artistes et vous-même, vous avez donc des albums. Alors, je peux citer Jacques et la mécanique du cœur. Et le distributeur automatique d'Aurore Boréale, aujourd'hui nous parlerons du livre Une sirène à Paris. Alors est-ce que vous pouvez nous parler déjà de ce titre, de ce nom, Dionysos, pourquoi et qu'est-ce qui vous relie à cet univers-là?
En fait c'était en cours de terminale, un cours de philosophie sur Nietzsche, où il était question de la naissance de la tragédie et de l'opposition entre l'art dionysiaque, qui était le plus fougueux et le plus sauvage, le plus physique, et l'art apollinien, qui était plus rêveur. Et, en gros, ce que ça disait en très très gros, c'est que l'équilibre entre les deux était vraiment le résumé du processus créatif. Mmh. Et du coup, j'aimais bien l'imagerie dionysiaque, de ce côté, le champ des possibles, la gourmandise sauvage, l'animalité. Je trouve que pour un groupe qui allait se produire sur scène et qui avait des envies de rôle et d'intensité. Il y avait vraiment la question de l'intensité dans l'imagerie dionysiaque et ça m'a plu. Donc en plus, comme je voulais pas m'appeler The quelque chose, alors que j'avais quand même une culture plutôt anglo-saxonne, on trouvait que c'était un bon nom. Après, c'est devenu un peu le prénom du groupe. 25 ans plus tard, la référence qui peut paraître un peu envahissante, pour nous, elle a disparu, alors qu'au début, c'était un gros malentendu, parce que soit effectivement, on nous prenait sur le côté Dionysos pour un groupe qui aimait bien boire, avec le côté du vin, soit les gens, ils voyaient quelque chose de très intellectuel, alors qu'en fait, c'était juste une imagerie et un nom, quoi, un petit véhicule qu'on s'est autorisé à prendre et que, qu'aujourd'hui, je ne regrette pas, 25 ans après, je suis toujours fier qu'on s'appelle Dionysos.
Oui, et c'est très expressif et c'est un concept qui, une fois déplié, donne beaucoup de pistes à l'imaginaire. Et ça, l'imaginaire, vous trouvez que c'est une force, c'est une arme, pour une arme de combat contre l'adversité, contre les jours qui ont chacun leur lot de surprises, bonnes ou mauvaises. Alors, il y a ces titres aussi qui sont intéressants. Jacques et la mécanique du cœur. Ça aussi, c'est une idée assez géniale qui préside à l'écriture de ce roman. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, la mécanique du cœur?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Bah, la mécanique du cœur, c'est 10 ans de ma vie. Donc, c'est un roman. Et puis, à partir du moment où j'ai eu cette idée de personnage qui naissait avec le cœur gelé qu'on sauvait avec une horloge en guise de prothèse, je me suis mis à enregistrer des horloges, à faire la musique du cœur de ce personnage, et surtout avec ces trois lois qu'il devait respecter, surtout pour rester vivant, avec cette greffe qu'il avait eue du coup du cœur quand il était petit. C'était ne pas toucher les aiguilles, ne pas se mettre en colère et surtout ne jamais tomber amoureux. Bon, alors évidemment, il va tomber amoureux derrière, il va se passer des bricoles. Mais tout ça m'a donné envie de faire de la musique et du cinéma. Moi, j'ai toujours eu une passion équilatérale pour les films, les livres et les disques. Et là, j'ai eu envie de faire mon film. Et j'ai mis 6 ans ensuite à faire l'adapter en film d'animation. Mais c'est une épopée comme je les aime, parce qu'elles ont, elles racontent quelque chose sur le réel, mais elles se permettent d'utiliser effectivement l'imaginaire pour le dire un peu plus fort. Et se servir de l'apanage de la littérature, du pas de côté, de pas se contenter de regarder, mais de voir, d'imager, d'histordre. Et c'est le goût et le style qui me plaît, moi. C'est comme ça que je m'exprime de manière la plus juste et la plus vraie. Curieusement, je me sens plus juste quand j'imagine que quand j'essaye de coller à la réalité. Donc la vérité peut se trouver aussi dans l'imaginaire. Pas seulement c'est une histoire vraie, on dit ce qui s'est passé, donc c'est vrai. Non, on peut dire quelque chose de vrai, mais de pas juste.
Alors,
de réel, mais de pas juste. Moi, j'aime bien l'idée d'essayer de fabriquer de manière un peu artisanale une autre vérité, une autre subjectivité. Pour moi, le processus créatif, il est là-dedans, il m'intéresse plus là-dedans. Et j'ai l'impression, effectivement, par rapport à ce que vous disiez en préambule de la question, que c'est une fonction vitale de l'être humain. C'est au-delà de mon penchant rêveur à moi, ou de certaines personnes qui sont plus enclins à assumer leur capacité d'émerveillement que d'autres. L'imagination, c'est tout simplement la possibilité de l'empathie. C'est-à-dire que pour pouvoir être empathique, c'est-à-dire se mettre à la place de quelqu'un, il faut faire preuve d'imagination. Quand on a un problème, il faut faire preuve d'imagination tout le temps. Donc, on a toujours l'impression que l'imagination, les contes, les rêves, c'est seulement l'apanage de l'enfance, et qu'après, une fois qu'on est adulte, on en a non seulement plus besoin, mais même on a parfois un petit peu honte, on a l'impression qu'on n'est pas un vrai adulte si encore on rêve, alors que vraiment, tout ce qui a trait à la création est lié à l'imagination et au rêve tout le temps. Et même quand on s'en rend pas compte, comme on fait des mathématiques toute la journée, on va compter certaines choses, et bien on imagine plein de choses aussi toute la journée. Mmh. Alors je suis pas du tout en train de dire qu'il faut que les adultes soient dans la régression permanente, ou qu'il faut être s'isoler dans une bulle à rêve, au contraire. Mais je pense que le passage entre de l'imagination et du réel, c'est un flux qui est très important pour tout le monde. Et que dans des périodes qui sont un peu troublées comme celles qu'on traverse aujourd'hui, particulièrement, elles sont encore plus précieuses.
C'est une énergie, c'est une création, c'est un apport de soi par rapport aux données de la réalité qui nous arrive. Alors il y a ce livre, Le journal d'un vampire en pyjama, c'est tout à fait exceptionnel. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ce titre, Le vampire et en pyjama, pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour susciter une telle énergie d'écriture qui est vraiment sa dope, voir vos vidéos, vous entendre parler, lire vos livres, vous transporte dans une... c'est comme si on prenait des vitamines mentales. Alors, le journal d'un vampire en pyjama.
Merci beaucoup. En fait, c'est un journal que j'ai tenu pendant 2 ans au moment où j'ai été contraint de subir une greffe de moelle osseuse. Donc c'était assez particulier par rapport à ce que je vous ai raconté justement avant sur la mécanique du cœur, parce que je venais de passer 10 ans à travailler sur une histoire d'un personnage qui naissait avec un cœur gelé, à qui on greffait une horloge pour le sauver. Et moi, à mon tour, j'ai dû être sauvé par le sang de cordon d'une femme qui a accouché en 99 à Düsseldorf, dont les cellules souches ont été conservées dans l'azote liquide à moins 120 degrés pendant 15 ans. Donc ça ressemble à la science-fiction, mais c'est complètement réel. Comme quoi, vous voyez, moi je disais dans ce livre-là, parfois la réalité dépasse la fiction, mais des fois dépasse même la science-fiction. Moi, c'était important, notamment pendant cette période de maladie difficile. J'ai été transfusé plus de 150 fois, hein, c'est pour ça que je me considérais comme un vampire, parce que j'avais le sang des autres. Mais je suis allé à toutes mes transfusions, c'était bordel, tout le temps. Ça me permettait de rester moi-même. Comme l'écriture me permettait de rester moi-même quand j'étais en chambre stérile. En fait, c'est le truc qui est terrible, finalement, c'est qu'on devient un malade. Sinon, on met la blouse de informe, là, de l'enfant, et ça y est, on perd son identité. Et je pense que l'identité, c'est un, pour résister et pour avoir une chance de s'en sortir, c'est le plus important. On sait qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est traversé, où tout est très très formaté, où on voudrait que tout le monde soit exactement pareil, pense pareil et croit aux mêmes choses. Et moi, j'ai l'impression que justement, on en revient à la question de tout à l'heure sur l'imagination, et ça parcourt tout ce que j'essaye de raconter, d'une sirène à Paris en passant par la mécanique du cœur, ou mon premier roman quand j'ai perdu ma mère, ou ce journal que j'ai écrit au jour le jour en période d'autocombat. Moi j'ai besoin en fait de il faut pouvoir arriver à rester soi-même, c'est ça qui est quand même le plus important. C'est là qu'on se régale, quand on rencontre, quand on lit un auteur. On est content de rencontrer quelqu'un de particulier. Quand on rencontre quelqu'un, même dans la vie, normalement, on a envie de quelque chose de particulier. Quand on est sidéré par un voyage, et par un volcan ou par un fjord, et bien c'est parce que c'est spécial.
Alors donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre qui nous réunit, Une sirène à Paris? C'est assez... C'est féerique, mais c'est ancré dans la réalité, c'est très incarné. Cette sirène dont le chant... peut tuer, dans le chant est d'une beauté féroce mais radicale, à laquelle on ne peut résister même physiquement, et elle peut faire des morts. Et cette idée de ce roman, un conte moderne?
Oui, en fait, surtout, c'était quelque chose de très universel et très simple à l'origine. C'est ce moment, c'est la question du deuil. Pour ça que j'ai eu envie aussi que... De vraiment l'inclure dans une histoire de famille avec le père qui a perdu sa mère et le fils qui lui perd sa grand-mère, qui était un peu sa maîtresse à penser, qui cachait des résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale dans la cale de son bateau. Et lui, le père, souffre comme le fils, mais lui veut faire table rase du passé, alors que le fils veut tout garder. Donc des fois, ça s'inverse comme ça, mais ils souffrent chacun de leur manière et ils essayent d'exprimer leur deuil. Après, lui, il a un double deuil, parce qu'il a le deuil amoureux aussi, qui est un deuil qui des fois peut être aussi violent que perdre quelqu'un de manière complètement absolue. Et se trouvait intéressant que ce personnage qui va du coup être dans le déni, qui peut vivre sans amour, alors que c'est un passionné et un jouisseur à l'origine, et quelqu'un qui est justement sur la question de l'intensité. De le faire rencontrer cette sirène. Pourquoi une sirène? Parce que en fait ça existe, les sirènes. Je suis pas en train de tout mystifier. C'est juste que évidemment j'ai jamais rencontré de fille avec une queue de poisson, et je n'ai jamais non plus eu une horloge à la place du cœur ni tout ça, évidemment. Mais par contre, cette fille qui va être sublime et qu'on va rencontrer trop tôt, parce qu'on pense qu'on peut plus tomber amoureux, ça nous est tous arrivé. Ça arrive à tout le monde, c'est-à-dire ce moment où après une rupture ou après un deuil, on pense qu'on va plus pouvoir faire quelque chose à cause d'un traumatisme. Comme quand on s'est cassé une jambe et qu'on a un plâtre et qu'on a l'impression, quand on a le plâtre, qu'on n'arrivera plus jamais à marcher normalement ou à courir ou à sauter. Et puis le temps fait son affaire et tant mieux. Mmh. Et des fois, on garde des cicatrices, mais bon, il y a le temps peut faire des choses. Et lui, disons que c'est un petit peu comme s'il s'était cassé, le cœur, mais que tout d'un coup, alors qu'il a encore à peine déplâtré, il se retrouve face à la fille la plus belle et la plus du coup dangereuse, parce qu'à partir du moment où elle est belle et désirable, du coup, il y a des gens qui retombent amoureux alors que lui se sent absolument pas prêt, ni pour la joie, et encore moins pour la souffrance. Mmh. Et du coup, je trouve intéressant d'exagérer et d'utiliser les atours du conte et de la mythologie en y mettant une sirène, parce que la sirène, c'est la plus belle possible et la plus dangereuse possible avec sa voix. Mmh. Et c'était intéressant, voilà, lui se croit immunisé par l'amour, par rapport au sentiment amoureux, et il se retrouve à s'occuper d'une sirène qui, elle aussi, on le saura plus tard dans l'histoire, a eu ses traumatismes et sa dangerosité à elle. Là, on part dans cette histoire d'amour impossible entre les deux, parce qu'elle va lui dire très rapidement « Ah oui, mais là, vous avez entendu ma voix, donc merci de m'avoir sauvé, de m'avoir recueilli sur les quais, mais vous allez mourir en seulement 3 jours. Les personnes qui ont duré le plus longtemps, c'est 3 jours. Donc là, vous allez avoir le cœur qui va exploser, vous allez mourir d'amour pour moi, je suis désolé, mais il vaut mieux me ramener tant qu'il en a encore temps. Mmh. » Donc vous êtes encore debout, sauf que lui va avoir le déni de lui dire « Ah non, mais moi, je suis immunisé, la femme de ma vie m'a quitté il y a quelques mois, donc je ne ressens plus de joie, à part quand je chante. » Donc du coup, à partir de ce moment-là, j'ai déroulé la bobine de cet amour impossible et les histoires des deux, parce que finalement, les deux, plus ils tombaient amoureux l'un l'autre, plus ils mettaient en danger l'autre. Et c'était à la fois, on a envie, et moi j'avais envie en écrivant qu'ils tombent amoureux, et en même temps, j'avais peur pour eux. Et je voulais vraiment que le lecteur ressente ce même suspense poético-amoureux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un truc très fleuri, avec plein d'imagination, et ce décalage poétique du fait que voilà, ce gars, avec son petit frigo de célibataire, il a 2 poissons panés et 3 paquets de pâtes qui traînent, et qu'il a une sirène ultra dangereuse et magnifique dans sa salle de bain. J'aimais bien ce plaisir du décalage, et en même temps, ça raconte toujours quelque chose de très simple, de très vécu, d'une autobiographie émotionnelle. C'est-à-dire que l'imaginaire, pour moi, il n'est jamais là pour seulement s'échapper. Il est là pour transformer la réalité. C'est ce que je dis en 4e de couve avec les surprisiers. Avec l'imagination, on transforme peut-être pas le monde, mais on transforme le sien, et c'est déjà un bon début.
Oui. Alors, Mathias Malzieu, ce livre, Une sirène à Paris, va être porté à l'écran avec Virginie Ledoyen et Rossi de Palma. Est-ce que c'est authentique? Ça va se faire?
Oui. Oui, alors bon, on est dans les financements, donc on est très très bien, mais il manque encore un petit peu. Mais en tout cas, oui, la Lula, la sirène, ce serait Clémence Poésie. Gaspard sera interprété par Reda Kateb. Mm-hmm. Virginie Ledoyen, effectivement, jouerait Milena. Mm-hmm. Rossi de Palma jouerait Rossi, je pense à elle depuis le début en écrivant le personnage. Mm-hmm. Victor sera interprété par Arthur H. Et Camille par Eric Cantona, le père.
Carrément. Ah, vous avez un super casting là, mais
un casting génial,
extraordinaire, un casting, on va oser dire, de rêve.
Oui,
carrément. Oui, mais ce qui m'intéresse aussi autour de vous, c'est votre univers geek. Vous faites vos films d'animation, vous avez des petits labos de poche. Parlez-nous un petit peu de vous lorsque vous voulez faire un film d'animation. Il y a toujours les surprises des œufs Kinder que vous pouvez animer devant un fond et ça fait des histoires féeriques. Alors, toutes ces images alimentent votre galaxie de rêves à l'intérieur de vous.
Oui, en fait, je pense que c'est comme un sportif qui s'entraîne, en fait. Moi, je le fais par passion et par plaisir, mais c'est vrai que je publie pas mal de choses sur Instagram où je bricole des petites vidéos de 15 secondes, des choses comme ça, qui sont des petites histoires qui musclent mon imagination au jour le jour. Je crois que je me suis rendu un petit peu addict aussi au processus créatif, à chaque fois que j'ai eu des gros déséquilibres. C'est-à-dire que quand je suis tombé très amoureux, j'ai eu besoin d'écrire beaucoup. Quand j'ai perdu ma mère, j'ai eu besoin d'écrire beaucoup. Quand je suis tombé malade, j'ai eu besoin d'écrire beaucoup. À chaque joie et à chaque peine qui déséquilibre, en fait, j'ai l'impression que l'écriture, c'est ce qui me permet, en tout cas, l'écriture et la créativité, parce que l'écriture, c'est toujours le premier étage de la fusée, parce que je peux écrire chez moi à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, il suffit d'un stylo ou d'un ordinateur, et ça, c'est génial. mais ça donne la curiosité et la gourmandise pour faire plus, à savoir des disques, à savoir des films, des clips, des tournées, mais tout ça, ça demande de la logistique. Alors des fois, ça prend du temps, et puis il y a souvent des obstacles sur le chemin, et c'est normal, hein, ça fait partie de tout processus. Mais moi, je vis pour ça, en fait. Je vis à ça. Je suis complètement à... Je suis à cette cause. Elle m'a déjà sauvé la vie plusieurs fois, même si, bon, quand j'étais malade, c'est surtout les médecins et les proches qui m'ont sauvé. Mais après, si moi, j'avais pas eu mon intériorité pour arriver à recevoir et à rester soi-même pour pouvoir répondre, en fait. Pour pouvoir répondre mentalement. Et je dis pas que ça me fait pas de moi quelqu'un d'invincible, hein. Y a pas de règles, et chaque cas est différent. C'est comme quand on monte sur scène. C'est pas parce qu'on va être bon le samedi soir à Lorient qu'on va être bon le lendemain à Toulouse, hein. C'est à chaque fois on remet son titre en jeu. À chaque fois que j'écris un livre, à chaque fois que j'écris une page, une chanson, à chaque fois que je mets un pied sur scène, à chaque fois que c'est comme si c'était la première fois et la dernière fois. Donc c'est un peu fatigant. Parce que j'ai l'impression de toujours de mourir et de renaître un petit peu à chaque fois. Et ça peut être fatigant pour l'entourage. Et c'est un truc un peu éprouvant, mais c'est le prix de la sensibilité, en fait. Quand on veut chercher des choses un peu hautes, c'est pas de la prétention. Quand je dis le haut, je dis pas qu'avec le haut, je suis mieux ou plus haut que les autres. C'est qu'en tout cas, c'est la question, encore une fois, de l'intensité de ce qu'on laisse traverser en soi. Et ben forcément, voilà, c'est comme la vitesse, quoi. Quand on est sur un bateau et qu'on met une grande voile et qu'on a une grosse sensation parce qu'il y a un gros vent, un gros temps, et ben il y a plus de chances qu'on casse le mât aussi. Donc ça se paye tout ça. C'est toujours, mais c'est moi ça me plaît. C'est pas un hasard si sur l'exergue, j'ai cité Jack Kerouac et cette citation de Sur la route où il parle justement de ceux qui, les gens qui le passionnent, qui sont les fous. Et les fous, c'est pas quelqu'un de forcément pathologique, c'est pas le fou pathologique, c'est le fou épique, c'est le fou de l'aventure, c'est le fou de l'intensité, c'est le fou de l'ultra-vie. Et ça, c'est quelque chose que je ressens au fin fond de mes lectures à 3h du matin, ou quand je me retrouve, comme je vous le disais tout à l'heure par rapport là au film que je viens de faire, là, qui est sur Arte.
Quel est son titre?
Norvège, l'appel du merveilleux.
Ah oui, en fait, je l'ai vu.
Je suis parti voilà, en skateboard jusqu'au Cap Nord. Bon, ben voilà, me retrouver avec un éleveur de rennes à 1500 km du cercle polaire dans le Grand Nord, avec mon petit skateboard sous le bras. Et ben voilà, ça vaut tout l'or du monde, ça, pour moi.
Moi, j'ai vu la vidéo qui est sur Internet. Je ne sais pas si c'est exactement le film qui va passer à Arte, mais...
Vous avez dû voir le teaser, peut-être. Le film, il fait 52 minutes.
Voilà, donc là, j'ai...
Il est disponible sur Arte, ouais.
Alors, Mathias Malzieu, merci beaucoup ce livre, pour cette belle énergie, pour ce rêve film. Alors, le livre dont nous parlons s'appelle Une sirène à Paris. C'est un roman.
Oui.
Ça paraît chez Albin Michel. Et j'invite nos lecteurs à le lire, à regarder les vidéos qu'il y a sur vous partout sur Internet et puis à écouter vos albums. C'est vraiment super. Merci beaucoup. À bientôt.
Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir.
Merci. Au revoir. Strasbourg Pilote. Arts et Lettres. Le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange.